Benjamin, vous avez un chiffre qui est même le chiffre du jour.
Oui, c'est 30% la chute du rouble de près de 30% par rapport au dollar, hein, après les premières cotations à la bourse de Moscou, bourse qui a d'ailleurs ouvert avec quelques heures de retard. Un tiers de sa valeur, c'est inédit. Julien Théron, c'est donc le premier effet visible, selon vous, de ces sanctions occidentales de ces derniers jours ?
Il y a deux éléments des sanctions. Il y a un bras qu'on pourrait qualifier de juridico-économique et il y a un bras aussi qui est un bras militaire. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est nouveau de la part de l'Union européenne. Dans ces deux bras, effectivement, il y a un durcissement de la position des Européens. Les sanctions qui sont prises contre la Banque centrale russe, effectivement, sont inédites et elles sont un peu expérimentales d'une certaine manière, mais on voit qu'elles sont suivies d'effets immédiats. Et du point de vue militaire, c'est aussi inédit et ça favorise l'Europe de la défense. De cette manière, on est en train de construire un espèce de pool stratégique de réponse à la crise que la Russie a provoquée en Ukraine. Et effectivement, oui, on a commencé à durcir très sévèrement. On est en train de construire leur puissance.
Sylvie Matelli, des sanctions économiques efficaces, a priori, qui seront efficaces ?
Alors, l'expérience qu'on en a dans l'histoire des sanctions, c'est que la sanction n'a pas d'efficacité. Certains vont citer l'Afrique du Sud et ça a fonctionné. En réalité, il a fallu des décennies. Ouais. On peut largement discuter l'efficacité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et là, ça rend la réponse un peu plus compliquée que le seul retour d'expérience historique, c'est que on est rentré dans une nouvelle dimension avec les sanctions sur la Russie. C'est que pour une fois, on sanctionne un pays fort, un grand pays avec lequel on a des relations économiques, commerciales extrêmement importantes et qui en plus a aussi noué des relations avec un autre grand de notre scène internationale, c'est la Chine. Donc on entre vraiment dans un domaine assez inconnu et dans un monde globalisé où les interactions sont... C'est assez intéressant de voir les sanctions, elles ne sont pas si différentes que ça et pas beaucoup plus grande ampleur que celle qui avait été instaurée en 2014, sauf à parler des sanctions militaires, encore une fois, et je partage ce qui a été dit. Simplement, les interdépendances entre les économies se sont encore amplifiées depuis 2014, et donc les anticipations des acteurs sont beaucoup plus fortes sur l'impact de ces sanctions.
Olivier Dorgan, en même temps, la Russie continue son offensive. Est-ce que vraiment... Il y a beaucoup de capitaux qui avaient été rapatriés. Est-ce qu'on peut estimer quand même que la Russie et que Poutine avaient anticipé ces sanctions ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Russie avait effectivement anticipé ces sanctions. Elle avait pris un certain nombre de mesures, elle avait rapatrié des capitaux, elle avait constitué des réserves monétaires et d'or très importantes. Elle avait également noué des partenariats assez forts avec la Chine.
À quel moment elle a fait ça, pardon ? Après 2014 ?
Après 2014. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 2014, on a souhaité prendre des sanctions qui étaient ciblées, justement pour éviter les effets de bord sur les économies européennes et notre très grande dépendance au gaz russe, qui était encore plus forte à l'époque. Et dès 2014, dès décembre 2014, pour ce qui est par exemple de l'alternative à SWIFT, la Russie a pris des mesures et elle a restructuré une partie de son économie, elle a restructuré sa dette, elle a rapatrié des capitaux et elle a effectivement noué ce partenariat avec la Chine. Et donc, ce qui est assez intéressant, parce qu'on pose tous la question, on se pose tous la question de savoir dans quelle mesure ces sanctions vont, quand est-ce que ces sanctions vont montrer leurs effets, et c'est très compliqué à dire, parce qu'en fait, on a du mal à anticiper comment est-ce que toutes ces mesures de préparation qui ont été faites par la Russie vont ou non contrer les effets des sanctions.
Est-ce que c'est SWIFT, alors ce système de transactions bancaires, c'est quoi ?
Alors, je l'ai déjà entendu l'expliquer aussi bien que je ne le ferai, même peut-être mieux.
Allez-y.
En fait, SWIFT, vous connaissez tout ce système au travers du BIC qui est sur tous nos RIB. C'est une sorte de carte d'identité des banques, une carte d'identité ultra sécurisée qui facilite les communications entre les banques. Et donc, quand vous faites une transaction d'un pays à un autre, vous passez le plus souvent d'une banque, d'une nationalité à une banque dans un autre pays, d'une autre nationalité. Et c'est vrai que ça a ce système de communication standardisé.
C'est comme une messagerie, c'est l'équivalent d'une messagerie.
Ça participe d'une messagerie, mais moi j'aime mieux le terme carte d'identité parce que ça identifie très clairement et ça sécurise l'identification de votre banque et donc votre transaction.
Donc les banques russes exclues de ce système ne peuvent plus effectuer de transactions avec des banques d'autres pays.
Elles ne sont plus reconnues, la transaction n'est plus sécurisée, donc elle a de grandes chances effectivement d'être refusée. Et puis en plus, bon, les sanctions aidant, elle sera refusée puisque c'est ce qui est imposé aujourd'hui.
Parce qu'effectivement, sur le côté nucléaire, on parle beaucoup SWIFT armes nucléaires, mais c'est SWIFT plus les autres mesures qui touchent le secteur financier, le secteur bancaire russe. Ce sont les mesures de gel des avoirs à l'encontre des principales banques commerciales russes. Ce sont les mesures qui sont en train d'être adoptées contre la Banque centrale russe qui, conjointement, vont avoir un effet très disruptif sur l'économie et la finance russe.
J'ai bien interrompu. Est-ce qu'on a quand même d'autres marges de manœuvre ? Quand on nous dit que c'est la sanction ultime, la sanction maximale, on s'inquiète un peu. On se dit, est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent être avancées pour contraindre la Russie à éventuellement un cessez-le-feu ?
Moi qui fais plutôt des études de conflit, de ce que j'ai compris de ce qu'était le système SWIFT et de l'impact que ça pourrait avoir, et notamment quand même du travail des Russes aussi à s'adapter à ça avec un système qui leur est propre, alors surtout en interne, mais qui pourrait être externalisé, qui pourrait aussi travailler à quelque chose de nouveau avec la Chine, l'Iran, le Venezuela. Enfin, on peut imaginer, parce que là, on est vraiment dans une création de nous, mais aussi d'eux, en adaptation. Donc, on peut imaginer des choses. Ça ne me semble pas vraiment un bon parallèle avec l'arme nucléaire en tant que telle, qui est vraiment un truc dissuasif, voire plus dissuasif.
Plutôt définitif, même.
Enfin, bon, je trouve le parallèle un peu hasardeux, mais enfin, bon, c'était à des fins pédagogiques.
Est-ce que l'addition des mesures laisse encore... Est-ce qu'on est déjà au sommet, ou est-ce qu'on peut encore en ajouter dans les jours
qui viennent? On peut aller encore ajouter. Moi, j'étais un grand critique pendant 8 ans de la politique de sanctions jusqu'à la veille de l'intervention où j'ai discuté avec un eurodéputé qui était chargé de faire passer le bloc de sanctions qui, à ce moment-là, était la sanction de 27 députés de la Douma, de le Parlement russe, pour ramener les Russes à la table de négociation après la reconnaissance des deux entités séparatistes. Je lui ai dit, mais enfin, ça ne suffira pas. Évidemment, le soir même, ils ont envahi parce que ça ne suffisait pas. Donc, il y a deux éléments. Il y avait la nature des sanctions qui se maintenait dans une certaine chose. Et puis l'aspect progressif, donc à chaque fois, c'était vraiment la politique des petits pas et qui n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, je reconnais qu'on est allé dans quelque chose de beaucoup plus fort, mais encore une fois, l'aspect militaire est aussi important.
Alors, en tout cas... Présentes, elles sont nombreuses et c'est une question qui se pose évidemment dans la mesure donc, où 700 filiales françaises environ opèrent en Russie, dont 35 entreprises du CAC 40. Elles font de la France le deuxième investisseur direct et surtout le premier employeur étranger en Russie avec près de 200 000 salariés répartis sur tout le territoire. Évidemment, certaines de ces entreprises sont plus exposées que d'autres. On pense évidemment à Engie qui a cofinancé le projet de gazoduc Nord Stream 2 suspendu par l'Allemagne. On pense également à Renault qui y est le premier producteur automobile via une filiale qui s'appelle Avtovaz et ses fameuses Lada qui pèsent très très lourd donc en Russie. Dans le secteur bancaire, c'est la Société Générale qui est en première ligne avec une filiale russe à 100% qui elle s'appelle Rosbank, une filiale qui emploie 12 000 personnes et qui génère 600 millions de chiffre d'affaires, s'ajoutent à ces grands groupes de très nombreuses PME et très petites entreprises que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rassuré la semaine dernière. Il se montre d'ailleurs très confiant, très serein. Il a affirmé que l'économie française était peu exposée à la Russie au lever d'Orient. Est-ce que vous partagez cet optimisme-là et est-ce qu'on peut exclure d'emblée une riposte russe sur ces entreprises satellites françaises?
Alors, je partage l'optimisme de Bruno Le Maire sur tout ce qui est échanges commerciaux entre nos deux pays, qui sont finalement assez faibles par rapport à certains de nos voisins européens, notamment l'Allemagne et l'Italie, pour ne citer que ces deux pays-là. Par contre, vous avez tout à fait raison. L'investissement français en Russie est considérable. Et on a un autre train de sanctions dont on n'a pas parlé ce soir, qui sont les mesures de gel des avoirs contre notamment des oligarques russes.
Veut dire quoi, le gel des avoirs? Expliquez-nous clairement, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, le gel des avoirs, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'on gèle effectivement les actifs financiers de ces personnes dans des banques. Mais c'est également, et ça, on l'a vu ce week-end, et c'est assez parlant, je trouve, en termes d'image, on saisit les biens physiques présents sur le territoire national.
Et pour ce qui est des gels des avoirs, il peut y avoir des gels, c'est-à-dire qu'on peut leur rendre.
Les gels des avoirs, en fait, ce n'est pas du tout la même chose qu'une saisie judiciaire suivie d'une vente. Les avoirs sont gelés. Ils sont rendus indisponibles durant toute la vie des sanctions. Après, une fois que les sanctions sont abolies, les avoirs redeviennent disponibles.
Donc il y a bien un risque économique pour ces entreprises françaises via peut-être des
nationalisations. Très clairement, parce que Vladimir Poutine, vendredi, a expliqué qu'ils allaient riposter, que la Russie allait riposter avec des mesures qui seraient miroirs des mesures occidentales. Et quoi de plus symbolique que la nationalisation éventuellement des intérêts de Total Energy, les intérêts de Société Générale, de Laura Merlin, de Auchan, pour parler effectivement d'entreprises plus connues effectivement du grand public. Ces entreprises-là sont aujourd'hui dans une position de grande vulnérabilité. C'est pour ça que je modérerai un petit peu l'optimisme du ministre sur l'absence de répercussions sur l'économie française.
Puis Sylvie Matelli, quand même, Poutine a une arme majeure, c'est le gaz. Il peut rendre les factures de gaz des Français plus chères. Il peut rendre le pain qu'on achète au quotidien plus cher. Parce que le blé est important aussi dans la stratégie d'exportation des Russes.
Et même au-delà de Vladimir Poutine, vous pouvez enlever le « il ». Les crises et les tensions géopolitiques, a fortiori les guerres, ont tendance à faire augmenter fortement les prix des matières premières. Donc c'est évident que le pétrole va continuer à augmenter. Il a déjà entamé sa hausse la semaine dernière. Il est évident que la plupart des matières premières, dont les produits agricoles, les prix vont se renchérir, c'est clair et nette. Peut-être pour illustrer l'impact que peuvent avoir les sanctions, prenons l'exemple de la Société Générale. Il y a des économistes qui commencent à s'inquiéter du risque systémique aujourd'hui lié à la chute du rouble et à l'incapacité des Russes et des banques russes, au risque de banques russes de se retrouver en faillite. Ouais. Eh bien, vous pouvez très bien par contagion, en fait, par effet boomerang, avoir une banque française très exposée en Russie qui se retrouve demain au bord de la faillite. Alors, c'est de la politique fiction, mais ça n'est pas totalement exclu.
Julien Théron, justement, comment limiter l'impact de ces conséquences éventuelles en France, que ce soit pour des entreprises comme des banques ou d'autres sociétés, ou pour les consommateurs, notamment le gaz, le blé, etc.
Je crois que le gouvernement a conscience, et c'est ce que dit Bruno Le Maire, de la nécessité d'accompagner les entreprises, voire de compenser pour les consommateurs.
Mais quoi qu'il en coûte, c'est le retour du quoi qu'il en coûte.
Un petit peu, oui. Ça fait un peu penser à ça, effectivement. Ceci dit, je crois qu'il est important, comme le quoi qu'il en coûte vis-à-vis du Covid, de comprendre la situation dans laquelle on se trouve, qui est une situation générale, qui est une guerre en Europe. Et qu'une guerre, alors on l'a oublié, hein, mais si chacun parle à ses grands-parents ou à ses arrière-grands-parents de ce qu'ils ont pu vivre pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est important de comprendre que c'est une situation de potentielle déstabilisation qui va bien au-delà de l'Ukraine, qui peut concerner d'autres pays, la Pologne derrière, et on parle aussi de la Moldavie, il y a les Balkans aussi, et que là on est dans une situation, on rentre dans une période de perturbation. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Effectivement, il peut y avoir des éléments économiques, hein, des répercussions, bien sûr, sur le prix du gaz, sur le prix de la baguette. Mais on est, au moins, l'Union européenne est unie. C'est un bouclier assez important. L'OTAN est notre bouclier militaire. Et on a tout à fait conscience du risque. Alors oui, il y aura certainement des répercussions. Il faut le dire aussi. Voilà, on est dans une situation quand même extrêmement
sensible. Un mot, si vous mettez...
Oui, juste, c'est vrai que le ministre de l'économie peut paraître trop serein. Il est dans son rôle aussi de rassurer. Mais il y a aussi un autre élément qui impacte, et c'est très important, c'est l'union des Européens. Et ce qu'on a mis en place au moment du Covid est là aussi pour rassurer sur le fait qu'on va tous affronter cette crise ensemble.
Et ce qui est assez intéressant, c'est quand même que la toute première prise de parole du président le jour des premières incursions militaires sur le territoire ukrainien, c'était de rappeler immédiatement aux concitoyens que cette situation géopolitique, cette guerre à nos frontières, aurait des répercussions sur le quotidien. Propos qu'il a d'ailleurs tenu à nouveau deux jours après auprès d'une filière qui est très impactée par éventuellement...
On peut jouer sur la fiscalité pour limiter justement cet impact ?
On devra peut-être jouer sur
notamment
la fiscalité.
Sur le carburant.
Après, il ne faut pas oublier que la crise énergétique, elle est aussi saisonnière. Elle est liée à une consommation très importante du gaz en hiver, que nous sommes fin février, que nous allons bientôt rentrer dans le printemps et que peut-être que mécaniquement, là aussi, les marchés vont venir compenser cette hausse qui est liée à cette situation inédite.
En tout cas, Julien Théron, vous qui êtes spécialiste en conflit et sécurité internationale, quel est l'effet politique de ces sanctions si on regarde le passé sur les dirigeants comme Vladimir Poutine? Est-ce que ça peut le renforcer au lieu de sa population parce qu'il va se poser en martyr ou au contraire l'affaiblir avec une contestation intérieure?
Dans le milieu scientifique, c'est très contesté, l'efficacité des sanctions. On l'a vu avec les sanctions contre Cuba, qui n'ont pas fait tomber le régime, contre les sanctions, avec les sanctions contre Saddam Hussein, qui l'a transformé en outil pour mobiliser sa population contre les États-Unis, qui se sont fait quand même accueillir différemment.
En Iran, ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas fonctionné sur le Venezuela. Il n'y a pas réellement d'exemple où ça a fait tomber un régime. Donc, ça n'est pas la question. Encore une fois, là, on est dans une période novatrice, avec des nouvelles sanctions. Mais ce que je tiens à dire très clairement, c'est qu'il est absolument certain que ces politiques de sanctions ont un effet aussi inattendu, c'est-à-dire qu'elles servent au régime russe à continuer à opposer la population russe à l'Occident. Il y a un discours qui est très clair, de l'Occident nous en veut, l'OTAN veut nous envahir, la Russie est menacée. Donc la politique de
sanctions...
Et est-ce que la population russe adhère à ce discours?
En partie. C'est très difficile de le savoir parce que vous imaginez bien que quand on vous appelle au téléphone pour savoir ce que vous pensez du pouvoir russe, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu sensible de répondre très, très objectivement. Mais il est certain qu'il y a une partie de la population qui y adhère parce qu'il y a un écosystème informationnel qui est extrêmement fermé aujourd'hui. Et puis une partie de la population, on le voit, enfin, je veux dire, les manifestations sont interdites et il y a eu 3000 arrestations quand même de personnes qui sont descendues à la rue pour contester. Donc ça veut dire que cet écosystème informationnel, il n'est pas complètement hermétique et que ça fonctionne aussi. Mais là aussi, on est dans une situation très tendue et avec un équilibre au sein de la population russe qui va être déterminant sur la crise.
Si vous m'avez dit.
Il y a un élément.